Bonjour à tous, je suis Patrick Sauce, éditorialiste international à BFM TV. Jeudi dernier, Vladimir Poutine a supervisé le défilé du jour de la victoire, marquant la fin de la Grande Guerre patriotique. Le correspondant de BFM TV en Russie était sur la place Rouge, il va nous raconter sa matinée passée à quelques pas seulement du maître du Kremlin. Bienvenue dans l'œil de Moscou. Et comme chaque semaine, nous retrouvons le correspondant de BFM TV à Moscou, Paul Gogo. Salut Paul.
Salut Patrick.
Tu as donc couvert pour nous le 79e anniversaire du jour de la victoire. Il faut quand même rappeler deux, trois chiffres qui font froid dans le dos quand même sur ce conflit. En moins de 4 ans de guerre, ce sont pas moins de 27 millions de soviétiques, des militaires, des civils qui sont morts pour la patrie. Et ce qui est totalement fou, effrayant là aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore la lutte contre le nazisme qui anime Vladimir Poutine. On ne va pas revenir sur le pourquoi il s'attaque à un État qui est dirigé par un juif, Volodymyr Zelensky, et qu'il traite de nazi, ça vaudrait un certain nombre d'épisodes. Tout simplement, Paul, tu as passé ce jeudi matin sur la place Rouge. On ne va pas non plus revenir sur le fait que tu étais surpris d'avoir été accrédité, mais tu y étais, à quelques mètres de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que tu as vu déjà, un premier fait saillant sur ce défilé qui avait peut-être un peu moins de machines, mais beaucoup d'hommes?
Oui, bah c'est ce qui me marque, c'est que d'année en année, c'est quand même de moins en moins impressionnant. J'ai connu des années durant lesquelles il y avait beaucoup de tanks, il y avait beaucoup d'aviation. Je me demande même s'il n'y avait pas un peu plus d'hommes, même si effectivement il y avait encore beaucoup d'hommes ce jeudi. Mais j'ai été parce que on arrive des heures et des heures en avance, et en fait c'est finalement un spectacle qui passe très très vite, parce qu'on a la sensation qu'ils ont pas grand chose à nous montrer et même à nous dire. Le discours de Vladimir Poutine, c'est assez si frappant, il est je crois de moins en moins long chaque année, donc voilà, c'est étonnant, sachant que c'est un jour important pour le Kremlin et pour pour dans la stratégie que le Kremlin a d'essayer de lier à tout prix ce qui se passe en Ukraine à cette Seconde Guerre mondiale qu'on appelle, je le rappelle, la Grande Guerre patriotique en Russie.
Moi, j'avais paradoxalement le sentiment que, contrairement aux deux années précédentes où ça jouait vraiment sur la peur, on a fait tellement de plateaux et de reportages sur ce fameux avion de l'apocalypse, sur les défilés aériens qui auraient lieu, qui n'auraient pas lieu, sur les gros plans, sur ces lanceurs de missiles balistiques. Et là, moi, j'avais l'impression que Poutine se sentait assez puissant pour ne pas avoir à rouler des mécaniques. Est-ce que c'était son sentiment ou vraiment t'as trouvé autre chose, toi qui étais vraiment sur place?
Mais je sais pas, c'est assez dur à interpréter parce que ça peut être l'un ou l'autre, mais j'ai quand même tendance, alors c'est peut-être un réflexe, mauvaise langue, de me dire que déjà ils ont peut-être pas beaucoup de tanks à nous montrer parce que les tanks sont occupés ailleurs. Et d'un autre côté, effectivement, les hommes étaient bien là. Et la personne qui commentait la cérémonie précisait quasiment à chaque bataillon qui passait qu'il s'agissait d'hommes qui avaient combattu ou combattaient dans le Donbass. Mais pour autant, il n'y a pas de victoire à célébrer, quoi. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, il essaie de faire un lien entre les deux guerres, sauf qu'il y en a une durant laquelle les Soviétiques ont remporté la guerre. Et l'autre, en fait, elle est toujours en cours. Et je pense qu'une part de l'explication, ça va être un peu des deux, mais une part de l'explication sur la façon dont tout ça se déroule vient du fait que, pour l'instant, il ne peut pas non plus fanfaronner autant qu'il le voudrait, Vladimir Poutine. Donc voilà, je pense que pour l'instant, il y a un côté, c'est pas très grave si on n'en fait pas trop, parce que de toute façon, pour l'instant, tout le monde nous suit, la population nous suit dans cette guerre en Ukraine. Et de l'autre, on ne pourrait pas faire beaucoup plus parce que, pour l'instant, les événements sont en cours, comme on dit.
Alors, à côté de toi, tu étais donc en tribune de presse. À côté de toi, il y avait des gens qui avaient l'air ravis d'être sous la neige au mois de mai. Est-ce que tu peux m'expliquer qui tu voyais à tes côtés? Je ne parle pas des journalistes, hein, mais des invités.
Oui, alors, tu précises bien que c'était, d'un point de vue météorologique, un enfer total. Ça l'a été pendant quasiment toute la semaine. avec des averses de neige assez impressionnantes parce que je crois que c'est mon premier 9 mai, défilé du 9 mai sous la neige. J'avais jamais vu une chose pareille. Voilà. Et donc, effectivement, alors nous, les journalistes, on nous place au pied des tribunes. Alors, on a le choix. Alors, on nous donne rendez-vous très tôt le matin au siège de RIA Novosti, qui est le siège de Spoutnik aussi, ce média qu'on a connu un temps en France. Parce que c'est là-bas que les autorités organisent généralement le tri des journalistes et la façon.
Alors, je précise que nous, pour le 14 juillet, on ne se retrouve pas devant France Télévisions. On va directement sur les champs, ou moi, la plupart du temps, sur la place de la Concorde, en tribune Brest ou Nantes. Ce sont les autorités qui gèrent tout ça.
Je suis content que tu le précises parce que c'était un peu mon sous-entendu. Parce qu'en gros, c'est vraiment la police russe qui prend contrôle des lieux. Et qui est vraiment chez elle, et ça m'a toujours frappé, et parce que je suis un petit aparté si tu me permets, mais parce que de manière générale, c'est la police et la garde nationale qui surveillent et protègent cette grande rédaction de RIA Novosti, qui est une agence de presse, et donc de Spoutnik, qui est un média de propagande aussi. Et pour moi, ça a toujours été le symbole du fait que ce média, ce conglomérat, on va dire, de médias avait été créé pour participer à sa façon à la guerre de l'information. Et donc c'est une sorte de voilà d'annexe pour moi du ministère de la Défense en charge de la guerre de l'information. Voilà pour cet aparté. Et donc on est parti de cet endroit-là. Et donc c'est dans cet endroit-là qu'on doit décider est-ce que alors on a le choix entre trois badges, le central droite et gauche de la tribune de Vladimir Poutine. Le central est plutôt réservé aux caméras, aux photographes parce que vous avez les hommes et les tanks qui arrivent en face de vous, donc ça fait de très belles images. Et les autres, en fait, donc on est sur les côtés de la tribune de Vladimir Poutine, à proximité des murs du Kremlin. Un détail qui me... Mais, enfin, ça m'étonne pas, mais je relève ça en tout cas tous les ans, c'est que notre positionnement au pied de ces tribunes est calculé au mètre près pour que quand on est au bout du trottoir, on ne puisse pas apercevoir Vladimir Poutine quand lui est à son pupitre. Et ça se joue vraiment à 20 cm. Si je faisais un pas de 20 cm, je serais en capacité de voir Vladimir Poutine, mais je ne peux pas le voir s'exprimer parce que tout est fait pour qu'on ait le moins accès possible au président russe, même quand on est à 50 mètres de lui. Voilà, donc je me suis un peu éloigné de ta question. C'était pour expliquer comment j'en étais arrivé là. Donc on est au pied de ces tribunes.
Oui, non, mais ça nous donne une bonne idée géographique de la chose. Si on poursuit le comparatif, moi, la plupart du temps, je suis donc le 14 juillet, tout en bas, face à la tribune présidentielle, pour des raisons, notamment, je dirais, de beauté de la chose. Il y a ce qu'on appelle un pool, c'est-à-dire une des chaînes de télévision qui va filmer pour tout le monde avec une grue, et pour éviter qu'il y ait des images un peu moches, en fait, on n'a pas le droit de filmer ce bout de défilé. On utilise vraiment les grandes images, mais par contre, moi, j'ai le droit de commenter, de dire un petit peu ce que je veux, même si pas très loin de moi, il y a des autorités militaires, et c'est simplement à la fin du défilé qu'il faut vraiment couper. Pourquoi? Parce que devant nous, on a des blessés de guerre avec ce qu'on appelle des gueules cassées, et que pour la dignité des gens, eh bien, on se concentre vraiment sur le défilé et pas autre chose. Toi, au-delà de l'aspect géographique, qu'est-ce qu'on te fait comprendre sur ce que tu peux dire ou ne pas dire?
Alors, une fois, tu sais, en Russie, une fois que tu as l'autorisation, tu fais ce que tu veux. Je crois que ça vaut à peu près pour tout.
C'est toujours aussi fou, ça.
Voilà. Nous, on reçoit nos badges et bien sûr, on nous dit rien. Alors, on est fouillé vraiment très précisément et de plus en plus précisément chaque année. Pour l'anecdote, donc ce sont les services de protection des hautes personnalités qui se chargent de vérifier tout le monde. Et pour l'anecdote, le monsieur me dit vous enlevez vraiment toutes vos poches. Moi, j'avais des mouchoirs, on est enrhumé, il fait froid, j'avais des mouchoirs usagés dans ma poche. Je me dis, je les laisse dans ma poche. Il tape ma poche et il sent le truc et je le sors de ma poche et il m'engueule de ne pas l'avoir sorti. C'est pour te dire à quel point ils veulent vérifier vraiment tous les objets. La dernière fois, on m'avait reproché d'avoir un calepin avec un stylo. Ils comprenaient pas ce que je pouvais bien en faire. Et en fait, ils craignent qu'on puisse avoir des objets qu'on puisse lancer sur le président russe. Parce que, dernier détail géographique, je te promets, j'arrête ensuite, mais moi, je choisis toujours le côté gauche de la place rouge parce qu'à l'issue de la cérémonie, Vladimir Poutine part à pied sur la place du manège, en bas de la place rouge, et il passe vraiment à quelques mètres de nous. Et c'est la seule fois dans l'année où j'ai la possibilité de voir Vladimir Poutine d'aussi près. Donc voilà comment je m'organise encore.
Mais justement, voilà, c'est à la fois futile et en même temps loin d'être anodin. Qu'as-tu ressenti ou comment tu l'as vu, Vladimir Poutine, au-delà de tout ce qu'on nous donne à voir?
Alors, c'est effectivement ce que tout le monde, en tout cas côté presse, regarde chez le président russe. On sent que c'est un jour important pour lui à chaque fois. Il est plutôt souriant, il est plutôt droit et fier. En plus, et c'était encore le cas aujourd'hui, il était quand même accompagné de quelques présidents. Alors, pas forcément des pays à l'importance géopolitique incroyable, mais enfin, il y avait quand même une dizaine de pays qui étaient autour de lui. Et donc, il est là à guider ses invités vers la flamme du soda inconnu. Alors, il a sa démarche habituelle que tout le monde a certainement un peu en tête. Il a l'air de boiter d'une jambe, mais ça lui donne un style un peu viril.
Les épaules qui roulent un peu, ça. Hein.
Ouais. Et on ne sait pas si c'est un problème à la jambe ou si c'est vraiment une volonté de jouer au moujik, comme on dit en Russie, à l'homme viril. Mais enfin, en tout cas, c'est très caractéristique de la démarche de Vladimir Poutine.
Il y a un côté, pardon, hein, mais je connais un acteur que tout le monde connaît d'ailleurs, Al Pacino, qui est un homme de petite taille et qui justement a toujours surjoué ce côté voûté alors qu'il mesure 1m63 ou 64, pas plus, mais parce que du coup, tout le monde se penche vers lui et ça lui donne une importance démesurée. C'est un très très grand acteur, mais en plus, il y a ce jeu d'acteur qui fait que, en rentrant un peu les épaules, eh bien, tout le monde se penche sur lui et quelque part, ça le grandit. Eh bien, peut-être que Vladimir Poutine fait du Al Pacino.
Voilà, parce que tu précises bien aussi, c'est une précision importante, Vladimir Poutine n'est effectivement pas quelqu'un qui est très grand. Donc c'est voilà, et peut-être que lui aussi joue à ça. En tout cas, tu sais bien que toute l'année, on se demande si Vladimir Poutine est malade, s'il a un double ou tout ce genre de choses. Bon, bah tous les ans, 9 mai, je peux dire et je peux confirmer encore cette semaine, il semblait assez en plutôt bonne santé et en tout cas dans la santé d'un homme de son âge, on va dire.
Est-ce que, comme les autres années, je me souviens du précédent épisode, tu as aperçu des snipers qui visaient un coin qui te paraissait incongru, c'est-à-dire notamment les troupes?
Oui. Non, bah, alors, eux, ils étaient toujours là, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils étaient vraiment partout. Et en fait, ils visent très, très loin parce que, en gros, l'objectif principal, je pense, de tous ces services de sécurité est pas tant de protéger Vladimir Poutine, mais enfin aussi bien sûr, mais que de protéger l'événement qui est un symbole. Et en fait, si quelqu'un venait à gâcher l'événement, ce serait presque une crise politique pour Vladimir Poutine tant il en a fait un symbole. Et donc ces hommes avec des snipers ou des jumelles regardent vraiment partout et très très loin aux alentours de la place Rouge. En fait, c'est une place qui est quand même assez grande et je pense que il n'y a aucun endroit dans la ville où un civil pourrait être sans l'autorisation des services de sécurité au moment de cette cérémonie, en pouvant entreapercevoir la place Rouge, même à 1 km ou 1,5 km de la place. Donc ces hommes regardent vraiment dans tous les sens et tout le monde est bien surveillé, les soldats aussi. Certains, j'ai cru voir d'ailleurs, passer aussi sous des portiques métalliques. Donc visiblement, tout le monde est bien fouillé. Tu sais, je me rappelle qu'il y a, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, pendant la cérémonie, il y avait un soldat qui avait totalement pété un plomb et qui avait, alors je ne sais plus ce qu'il avait fait, mais je crois qu'il avait commencé à casser les vitres d'une voiture de police ou quelque chose comme ça en pleine cérémonie. Et donc voilà, c'est typiquement ce genre d'incident qu'on craint, ou encore pire, quelqu'un qui sortirait de la foule pour se positionner devant un tank et en gros gâcher le spectacle du président russe. Alors avec un message politique, là ce serait encore plus dramatique pour les autorités. Et donc nous d'ailleurs, on est sur notre bout de trottoir avec des gens qui sont dos à la cérémonie, qui nous regardent et qui prennent bien soin à ce qu'on ne mette pas un pied en dehors de ce trottoir. Et à chaque fois qu'on met un pied en dehors du trottoir, ils nous tombent dessus et ils ne ratent rien. Donc c'est très, très surveillé avec des hommes en civil partout. Voilà, on a reçu des consignes aussi qui étaient celles des gens du public, mais qui nous concernaient aussi, de ne pas venir avec des drapeaux, de ne pas venir avec des symboles politiques, de ne pas venir avec des couleurs connotées. Entre autres, voilà, on comprend bien que tout doit être sous contrôle ce jour-là, que ce soit la sécurité du président ou l'image, la réussite de l'événement, quoi.
Dans l'épisode précédent, tu nous avais expliqué que les caméras de télévision étaient là déjà à la répétition pour déjà capter des images. S'il y avait justement un incident dont tu parlais à l'instant, est-ce que cette cérémonie, elle était diffusée en direct à la télé russe ?
Oui. Alors, je ne sais pas.
Direct complet, pas de décalage.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas s'il y a peut-être quelques secondes de décalage. Hein. Je pense qu'il y a quelques secondes de décalage parce que, comme on se disait, c'est comme un studio de cinéma. C'est même assez incroyable. Je vais pas détailler le dispositif, mais il y a des caméras sur des câbles au-dessus de la place. Il y a une caméra sur une voiture télécommandée qui me fascine tous les ans parce que ça lui permet de zigzaguer entre les soldats. Et c'est toujours impressionnant. Et il y a, voilà, c'est ce que la télé fait de meilleur en termes de technologie qui est utilisée ce jour-là. Et le fait est que, comme on le disait dans le podcast précédent, le russe moyen, le russe lambda n'assiste pas à cette cérémonie. Il n'a aucune idée de ce qui se passe sur la place rouge. Tout est caché, bouclé. Ce qui fait qu'on peut sans problème décaler un peu la diffusion, sachant que c'est quand même une cérémonie très ponctuelle. L'horloge sonne à 10h pétante et derrière tout s'enchaîne dans un timing très précis. Mais voilà, c'est très probable qu'il y ait quelques secondes de décalage pour éviter tout incident, justement.
Quand tu sors de la place rouge, tu as quel sentiment ? Je sais que, encore une fois, c'est court et peut-être un peu moins impressionnant qu'à la télé.
Oui, alors, bon, comme toujours, je crois, avec la télévision, tout paraît un peu plus petit vu en vrai. Mais ça reste impressionnant. Ce sont quand même des milliers de soldats, notamment au début de la cérémonie, qui hurlent ce fameux hurra tout son cœur. Et c'est très impressionnant à voir à chaque fois. Ce qui est intéressant sur la fin de la cérémonie, c'est qu'on peut voir tout le dispositif de sécurité se dégonfler d'un coup. C'est-à-dire que tous ces hommes, donc notamment le FSO, le service qui surveille au quotidien, qui protège Vladimir Poutine au quotidien, reçoit dans ses oreillettes la consigne de « ça y est, Vladimir Poutine a quitté les lieux, vous pouvez relâcher le dispositif ». Et alors là, vous voyez tout le monde se disparaître d'un coup. Et toute la foule, même nous, on est relâchés de notre bout de trottoir. Alors, soudainement, on peut monter sur la place rouge, enfin, avancer sur la place rouge. Et donc, on se retrouve au milieu des invités et des derniers soldats qui étaient encore sur la place. L'occasion, et je suis désolé, je pars un peu dans tous les sens cette fois-ci, mais de répondre un petit peu à ta question du début de notre discussion, parce que j'ai croisé...
C'est une discussion, justement. C'est pas une conversation formelle. Ouais. C'est l'intérêt de ce podcast, Paul.
J'ai croisé des personnages clés de ce régime à la fin de cet événement. Alors déjà, Dmitri Peskov, ça nous a beaucoup étonné, qui est parti tout seul vers la flamme du soldat inconnu. Il avait l'air tout triste, donc c'est le porte-parole de Vladimir Poutine. Il avait l'air tout triste, tout seul, tête baissée. Voilà, on a été étonnés de le voir comme ça. Et ensuite, j'ai croisé ce fameux Soloviev, Vladimir Soloviev, dont on entend beaucoup parler en Occident, qui menace de raser Paris avec une bombe nucléaire à peu près tous les trois jours à l'antenne de ses émissions. Il était couleur kaki à embrasser tous les soldats qu'il croisait. Voilà, et tout ça se mélange dans un public très étrange de gens, de personnes âgées qui ont l'air d'être des vétérans avec beaucoup de médailles sur leur costume. Je dis « ont l'air » parce qu'on en a parlé la dernière fois, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des médailles qu'on trouve sur Internet ou qu'on obtient sans avoir fait grand-chose parfois, parce que les vétérans, d'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup. Et je pense que les vrais vétérans sont ceux qui sont autour de Vladimir Poutine, d'ailleurs, dans sa tribune pendant la cérémonie. Et puis, il y a des vedettes. On voit qu'il y a une élite russe qui doit faire partie du système Poutine, des femmes très apprêtées qui passent la cérémonie à faire des selfies. Tout le monde a un petit cadeau en tribune. Alors nous, malheureusement, on n'y avait pas droit, mais on offre des plaids aux gens en tribune parce qu'il fait assez froid tous les ans. Et donc, tout le monde repart avec son petit cadeau. Les gens font des selfies, font des photos avec les derniers soldats présents sur la place. Et tout le monde repart très rapidement parce que, encore une fois, on est dans le symbole de ce 9 mai. 20 minutes après la fin de la cérémonie, tout le monde est amené à quitter la place rouge qui est de nouveau fermée au public. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un seul humain sur cette place le 9 mai et d'ailleurs durant les 10 premiers jours de mai, parce qu'on veut éviter tout risque qu'une action puisse être menée sur cette place.
C'est ma dernière question. Comment je dirais, dans quelle position mettre ce 9 mai par rapport aux deux derniers, celui de 2022 avec cette victoire éclair qui devait arriver, qui n'est pas arrivée, avec 2023 qui était encore difficile, et cette fois-ci avec, oui, il faut le dire, des succès tactiques, mais des succès quand même pour la Russie, une menace existentielle qui existe pour Poutine à travers, selon la propagande russe, les déclarations notamment venues de France. Comment tu as ressenti tout ça ?
Bien, moi, mon sentiment à la fin, quand même, c'est que, comme on disait au début, cette cérémonie, elle a l'air de plus en plus petite, de moins en moins importante chaque année. Alors, tu rappelais à juste titre que la Russie a quasi quotidiennement des petites victoires sur le front, de nouveaux villages qui sont occupés par l'armée russe. Mais ça, c'est pas encore assez pour que Vladimir Poutine puisse s'en vanter dans ce genre d'événement. Et on a même, moi, ce que je comprends même de ce genre d'événement, c'est que Vladimir Poutine, maintenant, il pourra se vanter que d'une victoire définitive, quoi. Il peut pas juste arriver devant les Russes un 9 mai et dire on a récupéré telle ville, hurra. Non, les Russes et même ceux qui sont présents à cette cérémonie, et il y avait notamment aussi des blessés hein, du Donbass, qui étaient des soldats blessés dans le Donbass qui étaient dans le public. Tous ces gens-là, ils soutiennent évidemment Vladimir Poutine sans faille, mais ils attendent aussi la fin de la guerre. Et pour l'instant, il y avait quand même un peu un sentiment amer chez certaines personnes, quoi, de dire que voilà, l'heure n'est pas à la fête. Pour l'instant, on célèbre cet événement parce qu'il faut le célébrer et puis parce que les derniers vétérans sont en train de mourir. Et puis Vladimir Poutine a son intérêt à le célébrer parce que il essaie de créer un lien à tout prix entre la Grande Guerre patriotique et la guerre en Ukraine pour que voilà que tout le monde soit un peu ému et se sente patriote et envie de participer à cette guerre. Mais pour l'instant, l'heure n'est pas à la fête et je sais pas pourquoi. Par exemple, il y avait si peu d'avions aujourd'hui. Les autres années, il y a les avions ou il n'y a pas les avions en fonction de la météo. Cette année, il y avait juste quelques avions. C'était vraiment service minimum. Les tanks qui disparaissent d'année en année du défilé. On ne sait pas trop à quoi joue le Kremlin et à quoi ressembleront plutôt les 80 ans de la victoire l'année prochaine. J'imagine qu'on essaiera quand même de faire une cérémonie un peu plus importante.
Eh bien, on va suivre ça avec toi. Merci beaucoup, Paul, d'avoir suivi, couvert pour nous cette journée de la victoire, ce jour férié. C'était jeudi dernier à Moscou. À la semaine prochaine, Paul. Et d'ici là, eh bien, vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast original sur bfmtv.com, BFM Radio et sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt.